Midi 30, 13h, le journal de la mi-journée sur Europe 1, c'est avec vous Fabienne Lemoyle. Bonjour Fabienne.
Bonjour Marlène, bonjour à tous.
Ils ont beau essayer de nous endormir en nous disant que tout va bien, on sait très bien que tout ira pas bien.
La colère et l'inquiétude des habitants de Rouen, deux jours après l'incendie d'une usine de type Seveso, ils dénoncent le manque de transparence alors que la ministre de la Santé dit clairement que la ville est polluée. 5 plaintes vont être déposées dès lundi par des riverains et des entreprises pour mise en danger de la vie d'autrui. Les Français vont pouvoir se recueillir dès demain auprès du cercueil de Jacques Chirac à partir de 14h aux Invalides. Hommage populaire qui a déjà pris la forme d'un livre d'or ouvert à l'Élysée, déjà signé 3800 fois.
Il était tellement à l'écoute de nous, agriculteurs, qu'on va le suivre jusqu'au bout.
À 12h45, notez que Jean-Marc de la Sablière, qui a été conseiller diplomatique de Jacques Chirac à l'Élysée, nous parlera de ce président qui a dit non à la guerre en Irak et non aux Américains. Dans le reste de l'actualité, quel sort pour la compagnie XL Airways? Les repreneurs potentiels avaient jusqu'à midi pour se manifester, alors qu'il n'y en a eu aucun pour Aigle Azur. Le journal des sports est l'exploit du Japon qui a battu l'Irlande 19-12, favori de la Coupe du Monde de rugby. La météo et l'automne au nord, nous dira Valérie Darmon. Et puis à 13h, nous prolongeons la tranche d'information avec Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Nous parlerons bien sûr longuement de la séquence sur la mort de Jacques Chirac et un reportage édifiant sur les mondiaux à Doha, où règne une chaleur étouffante avec des athlètes qui doivent courir la nuit.
Europe 1.
À Rouen, deux jours après l'incendie qui a touché une usine de type Seveso, les habitants ne décolèrent pas. La venue de trois ministres ne les a pas rassurés. Dernier rang date, Agnès Buzyn, ministre de la Santé, elle a dit clairement que la ville était polluée et qu'il ne fallait pas toucher aux suies sans protection. Élise Dangean, vous êtes sur place pour Europe 1, dans le périmètre au plus près de l'usine. Et là, clairement, vous me l'avez dit, les habitants dénoncent le manque de transparence et ils sont très en colère.
Oui, les habitants regrettent d'abord le manque d'informations et ce, dès la nuit de l'incendie. Ils n'ont pas été évacués, les services de la mairie étaient injoignables, pompiers et policiers débordés. Et aujourd'hui, pour Gwenaëlle, qui vit ici depuis 14 ans, les pouvoirs publics minimisent les conséquences de cet incendie.
Ils ont beau essayer de nous endormir en nous disant que tout va bien, on sait très bien que tout ira pas bien. Personne n'y croit ici. On sait très bien que ce qu'on respire, c'est pas bon du tout et que dans les années à venir, ce sera pas mieux.
Rémi aussi est très inquiet. À 58 ans, il pense surtout à ses enfants et petits-enfants et à tous ceux qui vivent près d'usine.
Là, on est au plus proche de l'entreprise Lubrizol. Pourquoi la mairie, au niveau cadastre, on fait construire des pavillons, des maisons et qui font encore construire des logements à des endroits où il y a des usines Seveso? Ça devrait être interdit.
Les habitants ont décidé de se mobiliser. Ils ont créé un collectif sur les réseaux sociaux et préparent une pétition pour être reçue par le maire. Ils manifesteront mardi soir pour réclamer plus de transparence.
Élise Dangean à Rouen pour Europe 1. Cette colère va se traduire d'ailleurs dès lundi par le dépôt de plusieurs plaintes de riverains qui se plaignent de vomissements ou par des entreprises qui redoutent un manque à gagner. Jean-Sébastien Soldaini vient de joindre leur avocat, maître Grégoire Leclerc.
Nous avons 5 plaintes qui seront déposées dès lundi. Des entreprises qui ont perdu du chiffre d'affaires, des particuliers qui ont été victimes directement du nuage de fumée avec des évanouissements, des nausées, parfois des chutes. Des gens qui sont en arrêt maladie suite à des intoxications liées à des inhalations de la fumée. Ces plaintes sont portées à la fois sur le droit pénal de l'environnement et sur le droit pénal classique, mise en danger de la vie d'autrui, blessure involontaire, mais également manquement à une obligation particulière de prudence et de sécurité, parce que aujourd'hui, il est inconcevable qu'une usine de ce type, qui contient en son sein un nombre de produits toxiques hallucinants, se trouve quasi en plein centre-ville de Rouen.
Maître Grégoire Leclerc avec Jean-Sébastien Soldaini.
Il est midi 34, la suite du journal sur Europe 1, Fabienne Lemoyle.
Et c'est donc demain que les Français vont pouvoir venir se recueillir auprès du cercueil de Jacques Chirac aux Invalides à Paris. Moment fort voulu par la famille et que nous vous ferons vivre dans une édition spéciale à partir de 12h30 et jusqu'à 14h avec de nombreux invités. Et cet hommage populaire, il a d'ailleurs déjà commencé depuis jeudi soir à l'Élysée avec des registres ouverts au public, au moins 3800 signatures sur le livre d'or. On rejoint sur place Hélène Terzian devant le palais présidentiel. Et Hélène, cette émotion ne se dément pas depuis jeudi soir, en témoigne cette longue file d'attente depuis ce matin devant le palais.
Exactement, Fabienne, je peux vous dire que depuis ce matin, cette file d'attente n'arrête pas de s'allonger dans la cour de l'Élysée. Il y a bien sûr beaucoup de Parisiens, mais parmi ceux que j'ai rencontrés, certains ont fait exprès le déplacement depuis la province. Odile est arrivée ce matin depuis la Bretagne avec son mari parce que Jacques Chirac était venu visiter leur exploitation agricole en 1990.
On a dit notre connaissance, qu'on garde un très bon souvenir. C'était vraiment comme un père de famille. On discutait à table comme si on le connaissait depuis longtemps. On avait des petites dindes et puis il l'a prise dans sa main, on a des photos. Et pour respect pour lui, il était tellement à l'écoute de nous agriculteurs qu'on va le suivre jusqu'au bout, jusqu'à sa dernière demeure.
Odile est donc venue rendre hommage à un président qui était proche des gens, c'est ce qu'elle m'a dit. Amadou est lui venu honorer un homme d'État.
Il a été le porte-flambeau et la lumière de la France, c'est ce que j'ai écrit. Voilà. Ça a été un homme qui a marqué l'histoire. Moi, je me rappelle d'une chose, en 2003, quand il a osé dire non à Bush pour aller en Irak, là, j'étais encore plus fier. Pourtant, je suis un homme de gauche, mais aujourd'hui, je suis fier d'être là pour dire oui, Chirac, il a été un grand homme.
Amadou est fier d'être là aujourd'hui et il le sera aussi demain puisqu'il se rendra à l'hommage populaire rendu à Jacques Chirac aux Invalides.
Hélène Terzian devant le palais présidentiel à l'Élysée donc depuis ce matin, autre lieu où l'émotion est très forte depuis jeudi, la Corrèze, le fief de Jacques Chirac où l'on retrouve notre envoyé spécial Stéphane Place. Stéphane, plus précisément sur le marché de Tulle.
Oui, ici ce matin sur le marché de Tulle, les discussions tournent bien sûr autour de la disparition du grand de Jaco. C'est ainsi que les Corréziens parlent de l'ancien président, et cela dit bien à la fois l'attachement et le rapport très personnel que ce département entretient avec Jacques Chirac, au-delà d'ailleurs des sensibilités politiques, comme l'explique Roger.
Bon, je ne suis pas forcément de son bord, mais il était humain. Ce Chirac, je l'aimais pour sa convivialité et tout ça.
Attachement que les Corréziens ne sont pas les seuls à ressentir, croisés sur le marché, accueillis par des amis pour le week-end en Corrèze. Charlie vient de Belgique.
Nous allons aller après-midi à Saran pour aller visiter le musée qui lui est dédié. C'est une personne très populaire en Belgique aussi. Il était très très bienvenu chez nous, parce que comme vous le savez, nous sommes des grands amateurs de bière.
Parmi les producteurs installés ici ce matin sur le marché de Tulle, il y a Émilie. Cette jeune femme était bébé lorsque Jacques Chirac est entré à l'Élysée. Mais ce matin, elle est heureuse d'afficher son slogan de campagne pour vendre ses fruits.
On est producteur de pommes donc en conversion bio, troisième année sur Ébury. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le petit slogan « manger des pommes » était tout à fait venu sur le marché. Monsieur Chirac était quelqu'un très important pour les agriculteurs en Corrèze et tout autour.
Manger des pommes, un chef s'est fait pour chefer sur le marché. Ce sont aussi les formules chiraciennes que l'on entend ce matin dans les conversations.
Stéphane Place à Tulle, on vous retrouvera évidemment longuement dans tout terrain pour parler du grand, comme vous disiez à l'instant, avec un ami d'enfance de Jacques Chirac. Longue séquence aussi dans tout terrain sur la mobilisation de toute la rédaction depuis jeudi midi pour couvrir cet événement. Et je vous rappelle donc édition spéciale demain à partir de 12h30 et jusqu'à 14h pour l'hommage populaire aux Invalides avec notamment à mes côtés une grande voix d'Europe 1, Michel Cotta. À suivre, quel sort pour la compagnie aérienne XL Airways ? Y a-t-il des repreneurs qui se sont déclarés ? Ils avaient jusqu'à midi.
Il est 12h40, le journal de la mi-journée se poursuit sur Europe 1 avec vous Fabienne Lemoyne.
Et une question après Aigle Azur, la compagnie XL Airways va-t-elle disparaître ? L'avenir de la compagnie aérienne spécialiste des vols vers les Antilles et l'Amérique se joue aujourd'hui. Les potentiels repreneurs avaient jusqu'à midi, Maud Descamps, pour déposer leur offre.
Bien oui, des offres qui seront ensuite présentées au comité d'entreprise de XL Airways entre aujourd'hui et lundi. Elles seront ensuite rendues publiques. On sait qu'Air France n'a pas fait d'offre. Son patron Ben Smith a annoncé hier qu'il ne voyait aucun bénéfice pour sa compagnie à reprendre XL Airways, dont le modèle low-cost long-courrier ne convainc pas le dirigeant d'Air France. Le tribunal de commerce de Bobigny va maintenant examiner les offres de reprise, s'il y en a. Si aucune ne convainc le tribunal, alors, comme Aigle Azur, XL Airways pourrait cesser définitivement son activité. Il y aurait alors 570 salariés qui perdraient leur emploi. C'est donc un week-end noir pour le secteur de l'aérien. Une quinzaine de syndicats du transport aérien ont appelé hier le gouvernement à venir en aide à leur secteur. Contacté par Europe 1, le secrétaire d'État au transport Jean-Baptiste Djebari se dit disponible pour les rencontrer prochainement.
Maud Descamps du service économie d'Europe 1.
Le journal des sports.
Avec Jean-François Pérez, bonjour.
Bonjour Fabienne, bonjour
à tous. Et alors, Quelle surprise, énorme surprise, Coupe du Monde de rugby, eh oui,
écoutez,
on comprend la joie, oui, la nièce,
Tokyo,
eh oui.
Et dans tout le Japon, le pays organisateur de cette Coupe du Monde a réussi l'exploit de dominer l'Irlande, l'une des grosses équipes de la compétition. Score final 19 à 12, c'est la première fois que les Japonais dominent les Irlandais. Il y a 4 ans, on s'en souvient, ils avaient battu l'Afrique du Sud. Le Japon, c'est le croqueur des favoris et désormais donc en tête de son groupe devant l'Irlande et l'Écosse. J'en profite pour vous dire qu'en France, le top 14 continue pendant la Coupe du Monde. L'affiche de la 5e journée, ce soir à 20h45, le Racing 92 reçoit l'étonnant leader lyonnais.
Et du volleyball, les Bleus nous ont fait rêver. Là, il va y avoir la médaille de bronze pour se consoler peut-être.
Eh oui, peut-être. Les Français affrontent la Pologne à 18h dans la petite finale de l'Euro. Quelques heures à peine après l'immense déception de cette élimination par la Serbie, 3-7 à 2. Alors comment se remotiver ? Pas facile, admet le capitaine des Bleus, Benjamin Tonuti.
On avait à cœur de jouer cette finale dimanche. On se doit à nous de tout donner sur le terrain, avec j'espère plus de réussite, et aussi pour cette salle, pour tous les gens qui nous ont suivis depuis 3 semaines.
Voilà Benjamin Tonuti au micro de Cyril de la Morinerie qui sera cet après-midi pour Europe 1 à l'Accor Hotel Arena à Paris, tout comme au moins 10 000 spectateurs. La grande finale, ce sera demain. Affiche étonnante, Serbie-Slovénie.
Allez, direction Doha, le Qatar pour la suite des mondiaux d'athlétisme et déjà des chances de médaille pour la France.
Au marteau féminin avec Alexandra Tavernier qualifiée pour la finale et sur le 50 km marche avec Johan Diniz, une épreuve dont le départ sera donné à minuit, à la fraîche, enfin si l'on peut dire. Plus de 30 degrés attendus, une humidité très forte, des risques réels pour la santé des athlètes. Diniz, tenant du titre, sera au départ, mais pour lui, ce ne sera clairement pas marche ou crève.
L'envie, je l'ai. En tout cas, je suis arrivé ici, je suis arrivé en forme et tout ça. Mais maintenant, voilà, j'ai un grand soupir parce que ouais, je ne sais pas du tout comment je vais m'y prendre pour essayer de le défendre. Mais je ne prendrai pas de risque, ça c'est clair.
Parmi les autres Français à suivre ce soir, Jimmy Vico en demi-finale du 100 mètres, Pierre-Ambroise Boss sur les séries du 800 et puis Renaud Lavillenie à la perche. À 33 ans, le recordman du monde français n'est plus le roi de la discipline, mais notre consultant Jean-Claude Perrin croit encore en lui.
Au fil des compétitions, on a vu que malgré sa blessure, malgré des contre-performances, il était toujours d'attaque. Il gagne les championnats de France avec un très très bon saut à 5,80. Et puis dans les meetings, il a été un petit peu moins conquérant, mais il est toujours proche des meilleurs.
Voilà, coach Perrin avec Corinne Boulou, notre envoyée spéciale à Doha. Les premières compétitions à partir de 16h30. La finale du 100 mètres également, qui sera à vivre en direct sur Europe 1 à 21h15.
Et on retrouvera Corinne Boulou dans Tout Terrain juste avant 14h. Elle va nous expliquer justement ce que vous disiez, hein, courir entre guillemets à la fraîche, cette chaleur étouffante. Et on va
hier
se poser
soir,
la question de savoir,
Fabienne,
37
moitié,
degrés, elle m'a dit dans le
la
stade.
La moitié des marathoniennes hier soir, en pleine nuit, ont dû abandonner tellement les conditions sont extrêmes.
Voilà, et on verra avec elle quel sens ça a de faire une compétition dans de telles conditions. Allez, on passe au football. Début ce samedi de la 8e journée de Ligue 1.
Dans moins d'une heure, à 13h30, Lyon accueille Nantes, horaire inhabituel, mais la Ligue 1 drague aussi le public asiatique. À 17h30, Bordeaux accueille le Paris Saint-Germain, le PSG leader, mais battu par Reims mercredi soir, pour raconter au moins pour quelques minutes sur Kylian Mbappé, de retour après un mois d'absence pour blessure. Mbappé, Neymar, le duo reconstitué, à la plus grande joie de Thomas Tuchel, l'entraîneur parisien.
On a la possibilité de laisser jouer Kylian un peu. Je suis convaincu qu'il est les clés avec Ney et lui. C'est normal. Ce sont des gars qui sont normalement décisifs pour nous, qui donnent beaucoup de qualité et beaucoup de solutions dans notre jeu.
Voilà, Bordeaux, Paris Saint-Germain, 17h30. Les autres matchs à 20h dans le multiplex d'Europe 1. Reims, Dijon, belle affiche entre Nice et Lille, Monaco, Brest, Angers, Amiens et Metz, Toulouse.
Merci beaucoup Jean-François Pérez. Il nous reste à voir le temps ce samedi et c'est bien l'automne au nord, Valérie Darmon.
Et oui Fabienne, ressenti automnal au nord et estival au sud avec de la Normandie aux Hauts-de-France, un ciel chargé et des averses qui circulent de manière éparse d'ouest en est avant une amélioration en toute fin de journée, tandis que partout ailleurs, sur la moitié nord, les éclaircies gagnent du terrain. De la Nouvelle-Aquitaine à l'Auvergne, à Rhône-Alpes, Occitanie et PACA, ainsi que la Corse, le soleil s'impose déjà depuis ce matin de toute façon et jusqu'à ce soir. Et les températures sont stationnaires avec 28 annoncés à Nîmes et Avignon, 27 à Montpellier aux heures les plus chaudes de cet après-midi, 26 à Nice, 25 à Perpignan et Mont-de-Marsan, 23 à Albi, 22 dans le Bordelais et au Pays Basque, 21 en région parisienne, 20 degrés à Clermont-Ferrand et à Strasbourg et enfin 18 à Lille.
Merci beaucoup Valérie Darmon. À suivre, c'est donc demain que les Français pourront venir se recueillir auprès du cercueil de Jacques Chirac sous le dôme des Invalides. Et on l'a entendu dans le journal, ce témoignage avec, pour les Français, Jacques Chirac, qui est l'homme qui a dit non à l'Irak, qui a dit non aux États-Unis. On va en parler justement avec mon invité. Il a été conseiller diplomatique de Jacques Chirac à l'Élysée, Jean-Marc de la Sablière. C'est dans un instant.
Vous écoutez Fabienne Lemoyle sur Europe 1, il est 12h50. La suite du journal avec à présent votre témoin de la semaine, Fabienne.
C'est donc demain que les Français pourront venir se recueillir auprès du cercueil de Jacques Chirac sous le dôme des Invalides. Des Français, vous les avez entendus depuis jeudi sur Europe 1, souvent émus par la disparition de celui qui aura marqué plus de 50 ans de la vie politique de notre pays. Et dans leur témoignage, une image est souvent revenue, c'est celle de Jacques Chirac comme l'homme qui a dit non à la guerre en Irak, c'était en 2003, en refusant de s'associer aux États-Unis. Et c'est sur cette dimension internationale que je vous propose de revenir ce midi avec mon invité Jean-Marc de la Sablière, qui a été conseiller diplomatique de Jacques Chirac à l'Élysée. Bonjour.
Bonjour.
Avant de parler avec vous, Jean-Marc de la Sablière, qui avait été aussi, je vais le rappeler, ambassadeur auprès des Nations Unies pendant cette période clé de la guerre en Irak, j'ai juste envie de vous demander, puisque vous l'avez vu après son départ de l'Élysée, l'image que vous gardez à titre personnel de Jacques Chirac.
Je l'ai vu assez souvent. Vous savez, un profond respect pour ce qu'il a fait pour la France, sa politique étrangère et le respect que tout le monde avait pour lui, son autorité. Moi, j'ai une très grande reconnaissance parce qu'il m'a fait confiance et je me suis permis d'avoir une affection respectueuse pour lui également. Voilà. Et je suis très ému aujourd'hui.
Vous qui avez été son sherpa dans des grands sommets internationaux, donc qui étiez en coulisses à des moments clés de notre politique étrangère, il était comment le diplomate Jacques Chirac ? On a souvent parlé de son franc-parler, justement.
Bien sûr qu'il avait son franc-parler. Il était extrêmement courtois. C'était un homme de dialogue. Ça veut dire qu'il écoutait son interlocuteur très, très attentivement. Donc il engageait avec lui une conversation, un dialogue, rebondissant sur des propositions, faisant lui-même. Mais il pouvait, quelquefois, dans les séances multilatérales, essayer de passer en force, et ça arrivait, en Europe notamment.
Quel souvenir vous avez justement de ces moments, en levant un peu le voile des coulisses ?
Ce qui reste, si vous voulez, pour moi, c'est que d'une manière ou d'une autre, je trouve qu'il arrivait à obtenir très très souvent dans les négociations ce qu'il souhaitait. Mais alors, quand il fallait faire preuve de beaucoup de fermeté, vous référiez à l'affaire irakienne, Jacques Chirac était là. Hein. Il faut bien avoir en mémoire ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, en 2002, donc, il y a une entente pour qu'on essaye de régler le problème par la voie pacifique. Et puis, à un moment donné, en janvier, les Américains nous disent qu'ils vont partir en guerre. Et là, Jacques Chirac dit non, il faut expliquer les résolutions. La France ne va pas légitimer une guerre qui est illégitime. Et il avait l'appui, il était d'ailleurs en contact très étroit avec, en Europe, Schröder, avec Vladimir Poutine, avec les Chinois. Donc il avait l'appui de la très grande majorité. Il a dit, on ne va pas légitimer une guerre qui est illégitime et qui, en plus, elle est absurde parce qu'on risque d'avoir des conséquences considérables qu'on a vues ensuite avec le développement du terrorisme, etc. Donc là, il pouvait être très ferme.
Pour vous, c'est vraiment l'homme qui a dit non aux États-Unis ?
Oui, c'est ce qu'il a dit non aux États-Unis dans cette circonstance. Comme il était capable également, dans d'autres circonstances, il était d'accord de dire oui. Ça veut dire que ce n'était pas quelqu'un qui était anti-américain. Il défendait les intérêts de la France. C'était un homme de paix. Lorsqu'il fallait être ferme, il était ferme. Mais en l'occurrence, c'était l'homme qui a dit non. Et il a eu autour de lui, recueilli autour de lui, l'assentiment, n'est-ce pas, de la très très grande majorité de la communauté internationale.
Un de ses atouts, c'est qu'il parlait très bien anglais aussi. Même si on a beaucoup moqué son anglais.
Non, il ne parlait pas très bien l'anglais. Non. Il avait été aux États-Unis dans sa jeunesse, donc il avait une compréhension de la langue anglaise, mais il s'exprimait toujours en français.
On a moqué son accent, effectivement. qu'est-ce qui a guidé sa politique étrangère ? Vous parliez, on a souvent dit, Jean-Marc de la Sablière, la montée des intégrismes était quelque chose qui l'inquiétait.
Oui, je crois, ça l'inquiétait, il était inquiet aussi des amalgames qui pouvaient être faits Je vois après September 11, après le drame, où il a September 11...
Du 11 septembre.
Du 11 septembre, donc, où il a été solidaire avec les Américains. On est allé d'ailleurs aux États-Unis. Moi, je l'ai accompagné 8 jours après. On était à Washington et ensuite, on a été à New York. Mais il était très, très attentif à ce qu'il n'y ait pas d'amalgame, à ce que... En Occident, on ne dise pas tout le monde musulman, tout le monde arabe, n'est-ce pas, responsable de ça. Mais dans l'affaire irakienne, je me souviens de la conversation qu'il avait eue avec George Bush, où il lui expliquait que non seulement il serait illégitime, je veux dire, d'utiliser la force alors que l'on pouvait pacifiquement résoudre un problème, mais qu'une guerre pourrait avoir des conséquences, et que dans les conséquences, il pouvait y avoir la montée, justement, du terrorisme et des intégrismes. C'était un homme aussi qui avait... un souci très grand de la défense des intérêts de la France. Hein. Et là, il pouvait être comme d'une très grande fermeté, il était très moderne. Il avait un souci du développement, du règlement des problèmes d'environnement. Rappelez-vous le discours de Johannesburg, n'est-ce pas? Et il était visionnaire.
La terre qui brûle et
oui,
on regarde
exactement.
À côté.
Mmh. Exactement.
Un dernier mot, Jean-Marc de la Sablière. Dans ce qui a guidé sa politique étrangère, vous dites qu'il a été marqué... aussi par son expérience de lieutenant pendant la guerre d'Algérie, c'est-à-dire...
Oui, ça je pense que c'est vrai. Parce que, vous savez, il est parfois présenté comme quelqu'un de pacifiste qui n'est pas exact. Il n'aimait pas l'usage inutile de la force. Et quand la force était nécessaire, il était prêt à l'utiliser, mais il y faisait attention. Il n'acceptait pas que la France et les troupes françaises puissent ne pas être respectées. Et dans l'affaire en Bosnie, quand il est arrivé lui-même en 95 aux affaires, il y avait eu par les troupes serbes de Bosnie la prise de ce pont Vranja et des otages français qui avaient été des casques bleus français qui avaient été pris. Il a donné l'ordre d'y aller, hein, n'est-ce pas? Ça c'est l'ancien lieutenant. Et en même temps, il faisait très attention à ne pas verser inutilement le sang des Français. Et donc, s'il fallait utiliser la force, il fallait que ce soit en dernier recours et utile. Et il était très attentif au sang versé. Et ça, c'est parce qu'il a vu mourir autour de lui comme lieutenant des jeunes. Hein, et donc, il était très attentif à ça.
Merci beaucoup, Jean-Marc de la Sablière, d'avoir été avec nous ce midi pour évoquer la marque de Jacques Chirac en matière de politique étrangère. Et je rappelle que ses souvenirs, vous les racontez dans un livre, Les coulisses de ce monde, paru chez Robert Laffont. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Et puis vous le savez, on poursuit à 13h la tranche d'information avec Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Et cette semaine, nous allons revenir justement, bien sûr, sur la mobilisation de toute la rédaction d'Europe 1 pour couvrir la mort de Jacques Chirac. Depuis cette dépêche de l'agence France Presse, c'était jeudi matin à 11h58. Nous irons aussi, je le disais, au Qatar où ont débuté les mondiaux d'athlétisme dans une chaleur étouffante. Reportage incroyable, je dois dire, de Corinne Boulou sur la manière dont les athlètes s'adaptent en courant la nuit et en portant des vestes réfrigérées pour récupérer, édifiant à l'heure où l'on parle du réchauffement climatique.
Oui, Tout Terrain, c'est jusqu'à 14h sur Europe 1. Et juste avant, on refera un petit point sur l'info de ce samedi. A tout de suite Fabienne et bon week-end à tous. 13h, bienvenue sur Europe 1. L'essentiel de l'info, Fabienne Lemoyle.
À Rouen, les habitants au plus près de l'usine de type Seveso touchée par un incendie il y a 48 heures ne décolèrent pas. Ils dénoncent le manque de transparence sur les retombées de ce feu qui est désormais éteint. Et alors que la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a dit clairement hier que la ville était polluée et qu'il ne fallait pas toucher aux suies sans protection. Les premières plaintes vont être déposées par des riverains et des entreprises dès lundi, déjà au moins 5 pour mise en danger de la vie d'autrui et manquement à une obligation particulière de sécurité. Des riverains qui se plaignent de vomissements et des entreprises qui redoutent un manque à gagner. À l'Élysée, les Français continuent à venir signer le livre d'or ouvert en hommage à Jacques Chirac depuis jeudi soir déjà. 3800 signatures, hommage populaire avant celui demain aux Invalides à partir de 14h. Un hommage que nous vous ferons vivre sur Europe 1 lors d'une édition spéciale à partir de 12h30 avec de nombreux invités et notamment à mes côtés une grande voix d'Europe 1, Michel Cotta. Les sports avec une première grosse surprise dans la Coupe du Monde de rugby, le Japon qui a battu un des favoris du tournoi, l'Irlande, 19-12. Et puis le temps de ce samedi, Valérie Darmon nous dit qu'au nord, l'automne est bien là avec quelques averses. Côté température, ça grimpera jusqu'à 28 degrés à Nîmes, 27 à Montpellier, 23 à Albi, 21 degrés en région parisienne et 18 degrés à Lille.
Prochain rendez-vous avec l'info de ce samedi 28 septembre dans une heure sur Europe 1 et vous restez bien évidemment avec nous, Fabienne.